ambition collective pour 2018 doit être de combattre cette petite musique négative. Bien entendu, le développement économique et social ne se décrète pas depuis la résidence préfectorale. Le business plan, c'est vous. Moi, je ne suis là que pour vous aider. Mais j'y crois. Et c'est donc un message d'encouragement que je tenais à vous adresser avec l'ensemble des partenaires qui œuvrent pour le développement économique et les services de l'État. Et mon souhait, c'est de mettre tout simplement, modestement, à votre disposition pour vous permettre de réussir dans vos domaines respectifs. À travers vous, j'en suis persuadé, c'est toute la Martinique qui réussira. Et si l'économie de la Martinique va mieux, je suis persuadé qu'un certain nombre de problèmes que la Martinique rencontre seront résolus. J'entends dire qu'on n'y arrivera pas, j'entends dire que nous sommes isolés, j'entends dire que nous sommes très loin, trop loin. Je ne nie pas les réalités économiques et sociales de notre île. C'est une préoccupation. Ce taux de chômage de 19%, sans doute encore supérieur, en tout cas bien supérieur à celui de l'Hexagone, le vieillissement démographique qui déjà pèse sur la croissance économique, on l'a bien vu récemment avec la présentation des chiffres de l'INSEE. Alors oui, les difficultés sont là et elles sont bien présentes. Une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qu'on fait? On se lamente, on attend, ou bien on agit. Vous, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité organiser ces vœux, vous avez fait le choix d'agir. Vous avez pris des risques, vous en prenez. Vous avez fait le pari d'entreprendre, ce qui en soi est un risque. Vous ne comptez pas vos heures, et pour cela, ce soir, je souhaite tout simplement vous en remercier. D'autant que je suis convaincu, je vous l'ai dit, que cette petite musique parfois négative ne correspond pas tout à fait à la réalité. Et sans vous assommer de chiffres, je voudrais quand même en citer quelques-uns. Le chiffre d'affaires des entreprises qui a augmenté alors de novembre à novembre, pas forcément toute l'année 2017, de plus 3,6% en 2017. Le financement des entreprises, en augmentation également, le remboursement par exemple des crédits de TVA, qui a progressé toujours sur la même période de novembre 2016 à novembre 2017, de plus 17%. L'utilisation du très discuté CICE, le discuté au départ, beaucoup moins désormais, maintenant qu'il est dans le paysage. 4500 entreprises bénéficiaires au cours de l'année 2017, pour un montant de 70 millions d'euros. Je pourrais ainsi continuer les chiffres. C'était par exemple la fréquentation touristique en augmentation de 17% pour ce qui concerne l'unité hôtelière sur la seconde partie de l'année 2017. Mesdames et messieurs, en réalité, je voudrais vous faire passer quelques messages et je suis profondément persuadé que nous les portons ensemble. Que nous les porterons ensemble tout au long de l'année 2018. J'ai parlé des atouts de la Martinique. Au risque de vous surprendre, je considère que le premier de ces atouts est géographique. Certes, la métropole est à 7500 km, et elle restera vraisemblablement à 7500 km. Mais reconnaissons que le potentiel géographique exceptionnel de la Martinique, nous n'avons peut-être pas encore pleinement. Nous n'en avons peut-être pas encore pleinement bénéficié. Point d'articulation entre l'Europe, la Caraïbe et les Amériques, avec un marché potentiel de 40 millions d'habitants, en ce qui concerne la partie des Caraïbes. Bienvenue, monsieur le président de la Chine. Merci. La Martinique a tous les atouts pour en tirer en tout premier lieu profit, compte tenu d'abord de la richesse qu'elle a au sein de la zone Caraïbe, du fait qu'elle peut être ce lien entre l'Europe et les États dits les États tiers. C'est une chance qu'il nous faut saisir. Je crois que nous ne l'avons pas encore saisie. Quand je dis nous, c'est Martiniquais, représentants de la population et des services de l'État. À nous de regarder en face les situations qu'il convient d'inventer ont présenté récemment, grâce à l'ubérisation de la société, un logiciel, une application qui permet de commander son fret automatiquement. Je crois que c'est le cluster Carry qui le porte. Preuve en effet que les moyens de réaction sont possibles. Le deuxième atout concerne nos éléments de différenciation qu'il nous faut absolument valoriser et renforcer. Nous en parlions aujourd'hui, monsieur le conseiller exécutif, je pense évidemment d'abord au tourisme, évidemment à l'économie bleue, évidemment à la transition énergétique pour laquelle force est de constater que la Martinique a beaucoup d'atouts et quand même plutôt en retard, j'ose une petite pique, plus en retard que la Guadeloupe sur ce domaine-là. Il faudra bien que nous appuyions aussi. Dans un contexte international, pour revenir au tourisme, marqué par le terrorisme et après le passage de Irma, José et Maria, les indicateurs touristiques sont bons. Le nombre de visiteurs est en augmentation constante. Plus de 800 000, presque 900 000 en 2016, ce qui était déjà une progression de presque 10%. Et cette saison, nous devrions dépasser le million de visiteurs, je me tourne vers ceux qui tiennent notamment les comptes, avec notamment sans doute plus de 600 000 croisiéristes, et alors je suis bien placé pour les voir parce que je regarde tous les matins, et le nombre de bateaux différentiels, monsieur le président du conseil de surveillance du port, et le nombre de bateaux qui font escale, et surtout leur taille. Aujourd'hui, il y a trois gros bateaux, il y avait au moins 10 000 croisiéristes qui ont débarqué, ne serait-ce que pour le port de France, mais peut-être, peut-être ailleurs. En tout cas, ça a un impact très concret sur l'économie martiniquaise. J'ai cité le chiffre de la fréquentation hôtelière au second semestre de 2017, probablement déjà impacté par le début de la saison, de la haute saison, au mois de novembre. En tout cas, Céline, c'est qui dit, la fréquentation hôtelière retrouve des couleurs. Je voudrais dire d'ailleurs que sur ce sujet, l'État a pris des responsabilités. Vous m'aviez demandé, je parle, quand je dis vous, les acteurs du tourisme, d'assurer la sécurité, certes, en la matière, le 100% n'est jamais totalement atteint, mais il est presque. Mais en tout cas, je voudrais remercier à travers vous les policiers, les gendarmes, les douaniers, la police de l'air et les frontières, les militaires aussi, qui se sont engagés dans le plan d'action sécurité croisière que nous avons mis en place et qui, pour le moment, donne ses résultats. Et évidemment, nous allons le poursuivre. Je considère que la sécurité, notamment pour les croisiéristes de nos amis nord-américains, constitue un élément fondamental de l'attractivité de la Martinique. Et donc, je considère que l'État a là-dessus une responsabilité qui est très importante. En tout cas, s'agissant du tourisme, la Martinique dispose, je le pense, d'une occasion historique pour fidéliser ceux qui lui rendent visite cette année. Je pèse mes mots, je pense que nous pouvons devenir la destination de référence dans les Caraïbes et même d'ailleurs bien au nord. Je suis, je l'ai dit, à votre disposition avec les différents services de l'État pour y parvenir. J'appelle, de la part des acteurs du tourisme, et là aussi nous en parlons aujourd'hui, j'appelle à unir l'ensemble de nos efforts. Je crois que les idées sont bonnes, qu'il s'agisse du spirit tourisme, qui a été notamment présenté au Premier ministre, des idées autour de la gastronomie, notamment portée par la Chambre des métiers, mais aussi par le comité martiniquais du tourisme, par l'Union des industries hôtelières. Je pense que nous avons tout intérêt à unir tous ensemble nos initiatives pour parvenir à un très bon résultat là-dessus et devenir cette destination de référence. Le troisième atout de la Martinique, c'est vous. C'est-à-dire, c'est le potentiel entrepreneurial, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je dis ça parce que j'y crois profondément. J'ai rencontré depuis mon arrivée, depuis 6 mois, beaucoup d'acteurs qui ont des idées. Un certain nombre sont d'ailleurs présents ce soir. Évidemment, chaque territoire a ses spécificités, mais je pense que la Martinique est plutôt très bien placée en ce qui concerne le dynamisme. J'en veux pour preuve, je citerai qu'un chiffre en la matière, c'est que la progression des créations d'entreprises en Martinique a été la plus forte de l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer en 2017, pour être très précis, plus 2,6% de création en plus. Au plan national, c'était, il est vrai, 5,6%, mais en Guadeloupe, ça n'était que 0,2%. Cette capacité, ça sont des chiffres concrets, cette capacité de création d'entreprise, je l'ai dit, elle est vôtre. Elle repose aussi sur un certain nombre de pépites, et notamment des jeunes entrepreneurs. Et permettez-moi de vous dire que je suis particulièrement impressionné depuis mon arrivée par le dynamisme d'un grand nombre de jeunes. Et il faut le dire, pour beaucoup, ce sont des jeunes femmes, mais pas seulement. Vous le savez, nous avions proposé au Premier ministre, lorsqu'il est venu le 4 novembre, d'en rencontrer un certain nombre. Et donc, d'ailleurs, sur leur suggestion, nous avons ainsi, par exemple, invité ce soir Aurélien Filin, qui a innové avec sa bière Backful, j'espère que je prononce bien, bière aromatisée à base de bois bandé, et que vous pourrez goûter pour ceux qui le souhaitent ce soir. Je peux évidemment aussi citer Alain Abatussi, qui a innové dans le domaine du numérique et qui a lui aussi présenté au Premier ministre ce qu'il avait fait avec la possibilité de lire des prospectus en ligne. Je voudrais citer Christophe Adam, qui propose des services d'opticien à domicile, une réponse au problème de déplacement. Steve Bercy, qui a également pu proposer et présenter au Premier ministre sa solution dite AirZoom, pour que les professionnels puissent offrir Internet gratuitement à leurs clients. Et puis, pour ceux qui regardent Web Télé, bien sûr, Yanis Rosamon, qui a eu l'idée d'une Web Télé pour l'ensemble des Outre-mer, qui est une initiative que nous avons d'ailleurs communément encouragée par le ministère de l'Outre-mer et CDM. La ministre de l'Outre-mer, justement, lorsqu'elle est passée, elle aussi, a pu rencontrer au cloud, votre, ce soir c'est le temps de promotion du préfet, qui a pu rencontrer au cloud un certain nombre de jeunes entrepreneurs, je crois que de mémoire il y avait 25 ou 30. Je veux les citer parce que je crois qu'ils sont la preuve concrète que la Martinique a des ressources et du dynamisme. Ils étaient d'ailleurs ce matin, je crois, dans France Antilles, William Caster et Estelle Hilaire, qui ont mis en place à travers l'entreprise Carré 3D la première solution d'imprimante 3D numérique et qui viennent de s'installer. Thierry Léonard, qui est créateur d'un espace de coworking, alors je ne cite pas parce qu'on a fait plusieurs espaces de coworking et plusieurs représentants. Laura Laménardi, qui développe des comptes créoles en réalité augmentée. Je peux vous dire qu'on a eu une démonstration, mais c'est assez impressionnant. Je pourrais citer Saïd Seydou Barnabé de l'entreprise Parallèle 14, spécialisée également dans le numérique. Et je peux vous dire, pour avoir vu tout ce que font les uns et les autres dans le numérique, si certains se questionnent encore pour savoir s'il y a des possibilités de cluster numérique Martinique, que ces jeunes entrepreneurs, eux, ils ne se questionnent plus, ils le font et ils créent leur propre solution. Voilà, je pourrais encore en citer beaucoup. Vous aviez sans doute vu que lorsque j'ai choisi de présenter mes vœux, j'avais proposé à un certain nombre de jeunes entrepreneurs d'être également présents. Certains sont là ce soir, ils connaissent la maison, je vais arriver en les accueillant. Mais j'avais à cœur, je franchement, d'essayer modestement, avec aussi tous les acteurs institutionnels, d'inverser cette petite musique, encore une fois, sans nier les réalités, sans nier les difficultés, mais en affirmant un certain nombre de choses et en se fondant tout simplement sur la réalité. pour toucher à un domaine parfois un peu plus difficile, un peu plus sensible, je voudrais dire que sur les contrats aidés, qui ont donné lieu, vous le savez, à un mouvement social extrêmement important en septembre dernier, sur les contrats aidés, la Martinique aussi a été pionnière, puisque l'accord que nous avions pu conclure avec différents représentants syndicaux et associatifs, cet accord a fait école. Si vous observez le dispositif que vient de mettre en place le gouvernement en matière de contrat aidé, il prévoit une insertion professionnelle renforcée, un accompagnement renforcé, et c'est très exactement les termes de ce que nous avions prévu, à savoir nous étions engagés à ce que chaque contrat aidé devant être renouvelé puisse faire l'objet d'un examen particulièrement attentif pour voir s'il n'y a pas de meilleure solution. L'apprentissage, je sais que ça vous tient à cœur, et à la CTM à la CCI, mais d'autres formules d'apprentissage, on a inventé des groupements d'employeurs avec le monde associatif, toute une série de dispositions, et vraiment je me félicite que la Martinique ait été pionnière en la matière, et finalement le dispositif d'accueil renforcé pour les nouveaux contrats aidés soit précisément celui que nous avons mis en place. Et je voudrais vraiment remercier les sous-préfets pour le travail qu'ils ont accompli en liaison avec les mairies, en liaison pour le sous-préfet en charge de l'insertion avec les associations, pour que cet accord, je pense, ait ouvert la voie. Pour autant, bien évidemment, les problèmes sont encore devant nous en 2018. Je sais que les discussions sont difficiles, messieurs les représentants de la CPL, au plan national, en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Mais c'est parce que c'est important que les discussions soient difficiles. Et bien évidemment, chacun a sa vision, mais je ne doute pas que nous trouverons un accord. En tout cas, ce que je peux noter, c'est que le président Alfred Marie-Jeanne, et il a dit tout seulement, je peux le répéter, lorsqu'il a reçu le mairie de Pénico, le ministre du Travail, il lui a donné son accord pour travailler de façon commune sur la mise en place du nouveau plan d'emploi qui comporte un important volet de formation professionnelle. Donc, je forme un vœu, là aussi, puisque nous avons un coup d'avance grâce à cette visite, je forme le vœu que nous soyons, sinon les premiers, les presque premiers à signer l'accord sur la formation professionnelle. Je pense que tous les Martiniquais et tous les Martiniquaises y trouveront leur intérêt, et les entreprises en premier chef, puisque évidemment le fait d'avoir une main-d'œuvre bien formée est un atout compétitif pour la Martinique. Je voudrais brièvement, pour ne pas évidemment vous assommer, mais quand même je voudrais dire, c'est que vous avez la chance, et évidemment ça profite à la Martinique, d'avoir au plan national un gouvernement que je qualifie de business friendly, en français dans le texte. Qui aurait pensé que nous ferions aussi rapidement la réforme du droit du travail, qui apporte quand même des assouplissements et des possibilités d'évolution tant pour les employeurs que pour les salariés qui sont sans égal. La réforme du droit du travail, sans exagérer, on en parle depuis le siècle dernier, le 20e. En tout cas, vous le savez, c'est désormais une réalité. En matière de fiscalité, l'effort de l'État en direction des entreprises se matérialise dès 2018 par la baisse à 28% de l'impôt sur les sociétés pour les premiers 500 000 euros de bénéfices, contre 33% en 2017. Et en la matière, l'objectif fixé par le gouvernement est clair, c'est d'aligner la fiscalité des entreprises sur ce qui se pratique en Allemagne. Et bien évidemment, il est normal que les entreprises martiniquaises soient les premières à en bénéficier. Je voudrais également mentionner, en matière de simplification administrative, la réforme du régime des travailleurs sociaux indépendants. Là aussi, c'était très fortement demandé
et tout le monde peut être rassuré sur ce point. Elle rentrera en vigueur au 1er janvier 2019 et je crois que c'est extrêmement important et attendu par tous ces travailleurs indépendants qui forment quand même le socle économique de la Martinique. Je voudrais terminer en vous disant tout simplement que vous l'avez compris, à travers ces vœux d'encouragement, évidemment, l'État restera en 2018 et les années suivantes un acteur majeur du développement de la Martinique. Nous le faisons en étroite collaboration avec les différentes institutions, et en premier lieu la collectivité territoriale de Martinique, qui a adopté en fin d'année 2017 le schéma territorial de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, schéma qui a été approuvé par le préfet, par moi-même, le 17 décembre dernier. Alors, à travers cette feuille, cette appellation un peu technocratique, j'allais dire énergique, il y a vraiment de la réalité. D'abord, il y a des axes stratégiques de développement, et notamment le fait que oui, nous croyons au numérique, oui, nous croyons aux énergies renouvelables, oui, nous croyons à l'agroalimentaire et aux nouvelles formes d'alimentation. Je pourrais multiplier les exemples, mais surtout, cela signifie que la collectivité territoriale de Martinique a fait savoir comment elle entendait intervenir. Je crois qu'elle l'a fait en très grande concertation avec l'ensemble des acteurs. Et pour ce qui concerne l'État, cette feuille de route, de mon point de vue, est connue, elle est claire, elle est ambitieuse, et nous la partageons pour avancer la main dans la main avec l'ensemble des acteurs économiques. L'État restera également un acteur économique important, tout simplement parce que nous investissons beaucoup en Martinique. Bien sûr, j'ai eu l'occasion d'en débattre dans une rencontre que je qualifierais de directe, parfois virile, mais en tout cas intéressante, avec les acteurs du BTP, donc avant tout par la commande publique. Quelques chiffres pour illustrer ces interventions. 37 millions mis par l'État au titre de la modernisation de sa politique immobilière. 3,6 millions d'euros au titre du fonds exceptionnel d'investissement qui vient aider les collectivités locales dans leurs propres investissements. Une douzaine de millions d'euros pour la part État chaque année avec, au titre du contrat de plan État-région. 38 millions et demi chaque année au titre du logement social. Et je vous donnerai une chose tant que vous vous y avez reçu sur le logement social. Nous avons pu vérifier lors de la réunion que je faisais à Lyon. Cela fait des années que l'État est à 38 millions et demi. Nous continuerons d'être à 38,5 millions d'euros. Je crois que c'est un investissement qui est quand même important. Après, j'en suis conscient, il faut qu'on soit capable de réaliser les logements bon avec. Et on s'est déjà rencontré avec les différents acteurs, justement, pour améliorer nos procédures. Je n'oublie pas, parce que sinon vous me reprocheriez la défiscalisation, en 2017, sur une période simplement de 11 mois, maintenant encore les 12 mois de l'année, 84 dossiers ont fait l'objet d'une demande d'agrément local représentant 142 millions d'euros, dont 40% pour le logement social et intermédiaire. 5 dossiers ont fait l'objet d'une demande d'agrément en national, c'est-à-dire plus de 5 millions d'euros, pour un montant total de 77 millions d'euros. L'investissement de l'État ici en Martinique, c'est aussi bien sûr les concours financiers versés aux collectivités locales. Le montant total de ces concours financiers pour les collectivités de Martinique, c'est quand même élevé à 650 millions d'euros. En 2017, bien sûr, c'est pour payer aussi un certain nombre de dépenses des collectivités, hein, dépenses de fonctionnement, ce n'est pas seulement de l'investissement, mais il y en a une partie. De même qu'en matière d'investissement, le soutien à l'investissement public local à travers le dispositif dit DECIL et de la DETR ont permis, grosso modo, de financer 5 millions d'euros d'investissement directement par les collectivités locales. prévoir investissement dans tous les domaines.
Il y a un domaine pour lequel nous nous sommes fixés une priorité avec les services de l'État, et pour tout vous dire, nous sommes le 19 janvier, nous avons, en plus que nous avons déjà fait deux réunions, dont une avec les différents services intéressés, c'est la réduction des délais de paiement aux entreprises. Sujet que vous connaissez par cœur, mais sous un aspect négatif, il faut le dire. Donc je tiens à dire, pour ce qui concerne l'État, nous sommes à 26,2 jours, c'est-à-dire en dessous de la norme légale de 30 jours. Et mon ambition, c'est non seulement de rester en dessous de cette norme légale pour l'État, mais évidemment d'être encore plus performant, je pense qu'on peut le faire. Reste deux questions épineuses, celle des délais de paiement des collectivités et celle des délais de paiement des hôpitaux. Pour ce qui concerne les hôpitaux, c'est un axe prioritaire, vous le savez, dans une configuration très difficile de la mission d'administration provisoire. J'ai déjà eu l'occasion, là aussi, d'en parler avec le directeur. Et pour ce qui concerne les collectivités locales, nous avons déjà, avec la directrice régionale des finances publiques, identifié un certain nombre de pistes qui pourraient nous permettre de réduire ces délais qui sont trop longs et qui sont au-delà des seuils légaux. Je voudrais terminer mon intervention sur peut-être un domaine en apparence un peu plus éloigné des préoccupations des chefs d'entreprise, mais qui mérite quand même réflexion, c'est celui de nos capacités de résilience face aux risques naturels. J'en suis persuadé, dans mon esprit, il y a un avant, il y a un après Irma, José, Marie. Qui aurait cru que nous aurions à faire face à des vents de plus de 350 km/h? Cela semble quasiment impensable. Or, aujourd'hui, nous avons à penser l'impensable et nous avons surtout à réagir face à l'impensable. Certains d'entre vous, certains chefs d'entreprise étaient présents lorsque est venu Philippe Custin, qui est le délégué interministériel à la reconstruction de Saint-Martin. Et ce qu'il nous a dit était à la fois impressionnant. 4000 maisons dont le toit s'est envolé, 25% du parc immobilier à reconstruire totalement, 4600 véhicules déclarés à l'état de Paris, je pourrais l'expliquer. Ce qu'il nous a dit est à la fois donc impressionnant, mais en même temps, je pense, un puissant facteur d'action. Et en tout cas, il nous a invités à regarder la réalité en face. Et je pense que, bien évidemment, c'est là la mission de l'État, c'est la mission des collectivités de se préparer face à ces événements naturels, mais c'est aussi le devoir des entreprises pour votre propre, j'allais dire, votre propre business, tout simplement. La production de vos biens, les assurances, et on s'est aperçu ô combien dans les destructions de Saint-Martin, combien ce sujet était critique, les assurances, la capacité à reprendre son activité, ce que nous appelons dans notre jargon administratif les plans de continuité, pour tout simplement retrouver une activité économique, même dans des conditions dégradées. L'accompagnement des salariés, toutes ces questions, elles se posent à vous, bien sûr, elles se posent à l'État et aux autres institutions, mais en tout cas, ce sont des questions que nous ne pourrons pas éviter. Et je pense qu'en 2018, cela doit être un chantier majeur. Mesdames et messieurs, je vais en terminer. En 2018, sur ce sujet-là de la résilience, comme sur les autres, vous pourrez compter sur l'État, sur ses services, sur les différents opérateurs de l'État qui sont présents ce soir, et je voudrais remercier. Nous avons un exercice rapide à terminer, qui est celui dit des assises des Outre-mer. Je voudrais apporter une précision d'ailleurs à ce sujet. Certains nombres d'informations ont pu laisser penser que le calendrier des assises était reporté. Alors je vous rassure, pour ceux que
Je travaille depuis quelques semaines en leur demandant de produire dans des délais absolument improbables nos projets. Les dates n'ont pas changé. C'est toujours pour la fin du mois de février, peut-être mi-mars, mais vraiment fin février. Ce qui a simplement été décalé, c'est la seconde consultation numérique. Tout simplement parce que la première consultation numérique qui avait été faite pour l'ensemble des populations de l'Outre-mer a été extrêmement riche en données sur les priorités et de ce fait, l'analyse de cette première consultation a pris du temps et a conduit à un décalage du calendrier. Puisque je parle de consultation numérique, permettez-moi de terminer sur un point que je juge extrêmement positif. C'est que les Martiniquais, certains d'entre vous le savent, les Martiniquais et les Martiniquaises ont été les plus nombreux à participer à la consultation sur les assises des Outre-mer. On a été plus nombreux que les Réunionnais, en nombre absolu, et pas en nombre relatif. Et permettez-moi de vous dire que j'y vois là, sinon une preuve, en tout cas un élément extrêmement fort et concret de ce que je vous disais au début de ma prise de parole, à savoir que je pense qu'il y a un vrai engagement, il y a de vrais atouts en Martinique, que les Martiniquais et les Martiniquaises savent ce qu'ils veulent, que vous-même vous êtes les représentants d'un vrai réseau, d'un vrai mouvement dynamique et en faveur d'une Martinique qui peut gagner. J'en suis profondément persuadé et en tout cas sachez qu'en 2018, pour ma part, avec l'ensemble des services de l'État, nous serons à vos côtés pour essayer de gagner ensemble cette bataille pour le développement économique et pour l'emploi. Je vous remercie.